おかしいおかしい、おかしい。
Mais le moment où vous allez avec les héros.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. En prévision des élections de 2011, l'Union pour la Nation, une plateforme de l'opposition, a mis en place ce week-end un gouvernement qu'elle qualifie de fantôme. Comment analyser cette démarche de l'Union pour la Nation? Trois invités participent à cette émission. Jean-Baptiste Beaumanza, coordonnateur national adjoint, chargé de la communication et médias et porte-parole de l'Union pour la Nation. Bonsoir, monsieur Beaumanza.
Bonsoir, monsieur Alain.
Arsène Moika, coordonnateur du Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa, analyste politique. Bonsoir, monsieur Moika.
Bonsoir, Alain.
Maître Célestin Tunda Yakasinde, député national de la majorité et membre du PPRD. Il fait son entrée dans ce studio, donnons-lui le temps de prendre place et nous le saluons. Bonsoir, maître Tunda.
Salut, mon ami.
Voilà, vos réactions nous sont déjà parvenues. Blaise Osongo de Kamanga au Kassai Occidental. 50 ans après l'indépendance, comment l'opposition à travers ce gouvernement fantôme entend garantir la sécurité et le bien-être des Congolais? Trésor Gopé Kalonji de Lubumbashi au Katanga, que l'Union pour la Nation se concentre d'abord sur l'essentiel, c'est-à-dire préparer et gagner les élections prochaines, au lieu de distraire la population congolaise avec des actions du genre mises sur pied d'un gouvernement fantôme, ça, c'est placer la charrue devant le bœuf. Merci de nous suivre à Mahagui en province orientale sur 96.0 FM et partout dans le monde sur radiocafé.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
L'Union pour la Nation, une plateforme de l'opposition, a mis en place ce week-end un gouvernement qu'elle qualifie de gouvernement fantôme. Selon son coordonnateur, cette structure sert d'une force alternative politique en RDC en prélude aux prochaines élections. Pour le député national Clément Kankou, coordonnateur de l'Union pour la Nation, l'opposition ne veut pas seulement être une opposition qui critique dans un coin, mais une opposition constructive pour le bien-être de la population. On écoute Clément Kankou au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous voulons montrer à la population que nous sommes une alternance crédible, sérieuse. Nous avons appelé ce gouvernement gouvernement fantôme. C'est-à-dire que nous ne posons pas des actes d'État, mais nous sommes un repère. Pour ne pas dire une lampe de moi. Qu'est-ce que nous allons faire en pratique? Nous allons critiquer et nous allons dire à la population ce que nous, on aurait dû faire si on était aux affaires. Cela va rassurer la population pour qu'en 2011, que la population sache que ceux qui vont venir, ceux qui vont remplacer ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ne vont pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Je crois que de temps en temps, on critique l'opposition en termes de manque de propositions, mais nous voulons prouver à la face du monde que l'opposition que nous faisons est une opposition à la fois républicaine, constructive et surtout intelligente.
Jean-Baptiste Beaumanza, l'opposition doit constituer une alternative par rapport aux élections, pour les élections de 2011. Ça, c'est Clément Kank, coordonnateur de l'Union pour la Nation, qui le dit, que nous venons de suivre. Alors, donnez-nous un peu plus de détails sur ce gouvernement fantôme. Qui en sont les membres? Quels sont ses objectifs? Jean-Baptiste Beaumanza.
Merci beaucoup, Alain, pour la parole. Je salue d'abord les auditeurs de la Radio Capi. Ça fait un peu plus longtemps que je prépare à l'émission Dialogue entre Congolais. Il doit se passer 2 à 3 ans. Permettez-moi, Alain, bien avant toute chose, de pouvoir donner les sous-bassements même de l'opposition à travers notre pays. Les sous-bassements est d'abord constitutionnel. Nous allons interroger la Constitution à travers son article 8. Il est ainsi libellé. L'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis politiques et activités politiques par la présente constitution. Une loi organique détermine le statut de l'opposition politique. Et cette loi organique est là, Alain, pour aider les auditeurs à comprendre. C'est la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique. Particulièrement son article 8 qui est ainsi libellé. L'opposition a notamment le droit de 1. être informée de l'action de l'exécutif, 2. critiquer la dite action et, le cas échéant, formuler les contre-propositions sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public et de bonne mœurs.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à tous ces articles que vous énumérez?
Oui, c'est pour justifier et confirmer le propos du coordonnateur de l'INO, l'honorable Clément Campo. Permettez-moi, Alain, avant d'entrer dans le vif en rapport avec le gouvernement fantôme, répondre à deux préoccupations des auditeurs. La première, comment l'opposition entend sécuriser la population? Alors, ça, vous allez revenir sur cet aspect-là, Jean-Baptiste Bomanza. Allez-y directement aux questions que je vous ai posées. Là, vous voulez dire, en citant ces articles, que le gouvernement fantôme a un soubassement constitutionnel et légal. C'est ça que vous voulez dire?
Je le confirme, Alain.
Alors, qui sont les membres de ce gouvernement? Je présume que vous devez être le Premier ministre.
Oui, vous me posez la question de savoir qui sont les membres de ce gouvernement. D'abord, il y a le coordonnateur, M. Clément Cancou, qui est député national. M. Jean-Baptiste Bomanza est coordonnateur adjoint chargé de la communication immédiate, porte-parole de l'Union pour la Nation. M. Minga Changa Minga Bavon est coordonnateur adjoint chargé des questions politiques et administratives.
Pour ne pas dire ministre.
Pour ne pas dire vice-premier ministre. Monsieur Enerunga Ansel, coordonnateur adjoint chargé des relations interprovinciales. Et au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire au niveau de secrétaire exécutif national, ils sont au nombre de 19.
Alors, on ne va pas tous les citer, Jean-Baptiste Bomanza, on a compris, hein. Il y a déjà des noms, il y a des postes, tout ça. Mais critiquer l'action du gouvernement, c'est ce que l'opposition a toujours fait. Mais qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ce gouvernement fantôme? Quelle est la nouveauté?
La nouveauté, c'est que non seulement nous allons continuer à critiquer le gouvernement, mais cette fois-ci, nous avons pris toutes les dispositions qui s'imposent pour que nous puissions préparer les élections et les gagner. Haut la main, dans la mesure où notre interface, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, avec les contre-performances, ils ont déjà fait notre campagne. Je crois que la nouveauté, c'est que nous nous préparons sérieusement pour affronter les élections. Non seulement nous allons fonctionner comme l'opposition a toujours fonctionné, mais nous prenons toutes les dispositions qui s'imposent afin que nous puissions gagner les élections. Et je vous dirais que le gouvernement fantôme n'existe pas ici au Congo. Au Congo, il y a eu d'abord le gouvernement Tshisekedi de son temps, le gouvernement légal, et sous d'autres pieds, il y a aussi le gouvernement fantôme.
Maître Tounda Célestin, comment vous analysez-vous cette démarche de l'Union pour la Nation?
Moi, je crois que...
Vous êtes un peu perplexe, hein? Ce n'est pas chaque jour qu'on a un gouvernement, on est déjà un membre d'un gouvernement fantôme.
Oui, ça c'est vrai. Et ce qui me pousse à être encore plus perplexe, c'est, disons, la dernière affirmation de mon collègue, parce qu'il dit qu'il n'y a pas que au Congo, il y a des gouvernements fantômes, mais vous rappelez le gouvernement du
fantôme
plutôt. Vous vous rappelez le gouvernement de Tshisekedi à l'époque, tout ça, j'allais d'ailleurs en venir. Alors là, ça met un peu dans une situation de doute sur ce que l'opposition veut réellement faire. Alors, avant de m'appesantir sur cet aspect-là, je voudrais d'abord souligner que sur le plan pratiquement théorique, et il l'a dit, le collègue l'a dit lui-même, si on doit faire un peu ce que nous appelons du droit comparé, on peut dire que l'initiative peut être acceptable dans la mesure où s'ils sont nobles dans leur action, on devrait considérer que ça devrait même être dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du pays. Parce que, je l'ai dit, je crois, à l'une des émissions ici, c'est que l'opposition, c'est un instrument important dans toute démocratie. Parce que l'opposition doit servir, en fait, des garde-fous. par rapport à ceux qui gèrent. Ça doit constituer un peu des repères pour éviter que ceux qui ont l'impérium, ceux qui ont le pouvoir, ne puissent aller vers l'excès. Donc, de ce point de vue-là, j'ai toujours dit, l'opposition ne doit pas être considérée comme un chien à abattre dans une démocratie, dans un pays. Et en ce qui concerne ce gouvernement fantôme, en Grande-Bretagne, c'est même constitutionnel. C'est ce qu'on appelle le shadow cabinet. Donc, un gouvernement dans l'ombre. En France, ça ne se passe pas de la même manière. C'est-à-dire, dans les systèmes romano-germaniques, c'est-à-dire la France, la Belgique et tout ça, par rapport au système anglo-saxon. Là, vous avez tout simplement les responsables au niveau du parti, disons, au niveau de l'opposition, ou bien du plus grand parti de l'opposition. Vous avez secrétaire national chargé de ceci, secrétaire national chargé de cela. Ça, c'est en France. Mais alors, ce que je ne comprends pas très bien ici, chez nous, avec l'initiative de l'opposition, et là, c'est vraiment un doute pour moi, parce que je ne sais pas si vraiment l'opposition comprend effectivement ce qu'elle veut bien faire. Parce que ici, si j'ai bien suivi le collègue, il dit, bon, écoutez, c'est un gouvernement qui sera dans l'ombre pour critiquer le gouvernement en place, qui est aux affaires. Alors, moi, j'estime là, ce serait une erreur grossière, ce serait une erreur grave. Si ce gouvernement fantôme devrait avoir un intérêt pour notre pays, ça devrait être un gouvernement fantôme, donc une initiative qui servirait à préparer des programmes de relève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour où, bien sûr, ce ne sera pas aujourd'hui, ni même pas demain, mais parce que nous restons dans l'abstrait, le jour où ils pourraient accéder au pouvoir, eh bien, ils auraient déjà des dossiers ficelés. Ils auraient déjà un programme bien préparé. À ce moment-là, ça servirait à quelque chose pour le pays. Mais si c'est pour mettre en place une initiative, rien que pour suivre le gouvernement derrière et formuler des critiques chaque fois qu'il y a une petite erreur, chaque fois qu'il y a un oubli passé par là, pour moi, je vous dis, monsieur le journaliste, donc ce serait une initiative sans utilité.
Arsène Moïka, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, comment vous analysez l'initiative de l'Union pour la Nation? Vous avez suivi les deux précédents interlocuteurs.
Oui, premièrement, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses, c'est-à-dire un parti politique, c'est quand même un espace ou une structure qui forme les membres, qui forme les cadres, et de ce point de vue-là, et je crois que ça ne sera pas nouveau de voir un groupement de partis, en fait, des gens qui pensent qu'ils peuvent se structurer et former les gens. C'est-à-dire, ici, ce qui est spécial, c'est que ce n'est pas un seul parti politique qui se structure, mais c'est plutôt un groupement de partis politiques qui se structure. Et c'est là, peut-être, ce qui me fait passer la deuxième chose, pour dire, bon, l'idée n'est pas neuve, on a connu pendant les années, en fait, de la transition mobutienne, ce qu'on a appelé parfois gouvernement parallèle, gouvernement des Verts, et ainsi de suite. Et aussi, bien avant, on a connu aussi des partis politiques, du moins les grands de cette période-là, une sorte de structuration en gouvernement où il y avait des individus qui avaient en charge des dossiers. Et de ce point de vue-là, ils se préparaient. Et si jamais on avait besoin de quelqu'un, d'un poste de finance, on pouvait présenter 3, 4, 5 messieurs qui se sont déjà exercés pour essayer de se poser à chaque jour la question de savoir si j'étais à la place du ministre des Finances, comment je pourrais réagir. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas nouveau. Mais je me dis ici, ce qui est nouveau, c'est que nous avons affaire à un gouvernement, après à une opposition qui est constitutionnelle, qui est parlementaire. Cette opposition se retrouve dans les affaires. Elle participe à la gestion actuelle. Et donc, c'est là que la question se pose. Est-ce que ne faut-il pas, et c'est la quatrième chose, est-ce que ne faut-il pas préciser réellement les objectifs de cette initiative d'un gouvernement fantôme qui consisterait plutôt à préparer les élections, à essayer d'attirer les électeurs pour dire voilà, si c'était moi à sa place, je ferais ceci. Mais apparemment, tout en oubliant que dans la gestion d'aujourd'hui, cette opposition n'est pas assez innocente. Parce qu'en fait, il y a une crise d'opposition. L'Union pour la Nation bat les ailes depuis les dernières élections. Il y a eu des défections pratiquement dans les enjeux des élections. Et dans la répartition des candidats qui devaient se présenter à gauche à droite, il y a eu des partis politiques qui se sont retirés. Et avec l'arrestation du Sherman, donc, on se retrouve là avec une opposition absente. Et donc, actuellement, on ne tape pas l'opposition et je crois que c'est dans la réactivation et l'appel des troupes que se structure peut-être ce gouvernement fantôme. Dans ces conditions-là, oui, mais dire qu'il s'agit peut-être de se présenter comme une alternative, je ne comprends pas très bien, d'autant plus que cette opposition participe aussi à la gestion de l'affaire, notamment à travers sa présence au Parlement.
Jean-Baptiste Bomanza, vous réagissez au propos de Maître Célestin Toumba ainsi que d'Arsen Mouaka, mais pourquoi l'initiative de ce gouvernement parallèle maintenant, fantôme plutôt, au lieu de parallèle, c'est un gouvernement fantôme, pourquoi maintenant seulement?
Merci beaucoup, Monsieur Alain. Je vais commencer par réagir au propos de mon compatriote Arsen Mouaka. L'opposition est dans les affaires. J'enverrai Maître Mouaka à la loi portant statut de l'opposition que j'ai évoquée d'entrée de jeu de cette émission. Je lui dirai que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. L'opposition aussi est plurielle. Ce sont nos textes qui le disent. Et au sein de l'Union pour la Nation, il y a l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. La preuve en est que le coordonnateur est parlementaire. Moi-même, je ne suis pas parlementaire. Donc, cela est tout à fait légal. Et l'Union pour la Nation bat de l'aile. Non, je dirais aux compatriotes, moi, que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais la vérité est qu'à un moment donné, les activités de l'Union faisaient un peu de corps, du moins n'avaient pas atteint la vitesse de croisière. Mais je rappellerai aux compatriotes de Mosca que nous avons d'abord procédé par l'évaluation de l'action de l'Union après les élections de 2006. Nous avons procédé par la mutation de l'Union pour la Nation, de la plateforme électorale à la coalition politique. D'ailleurs, il y a l'acte notarié qui atteste cela depuis que cette mutation a été opérée. Et c'est ainsi que nous avons aussi procédé à la restructuration de l'Union pour la Nation. Compte tenu de certains préalables, il a évoqué l'arrestation du président de l'Union, Jean-Pierre Bemba. Il nous a fallu un peu de temps. Et comme nous attendions que les deux bureaux des deux chambres du Parlement et de l'opposition a désigné son porte-parole, ainsi que le collaborateur qui devait travailler avec lui. Jusqu'aujourd'hui, les dossiers se trouvent sur le bureau des deux présidents. Il n'y a aucun signe de vie. Alors, pourquoi maintenant, je viens de le dire, et je viens aussi de confirmer que là, j'attaque directement ce que Maître Toumba a dit, qu'il ne comprenait pas, il avait des doutes sur ce que l'opposition devait faire. Mais curieusement, en intervenant, son intervention n'a pas justifié les doutes qu'il avait exprimés. Au contraire, il était en train de me donner raison dans le propos que j'avais tenu. Donc, s'il dit que cette structuration-là, il ne la comprend pas, bon, je me pose la question de savoir comment aussi à l'ANP, ils ont un secrétariat exécutif. C'est dans le même cadre. Donc, nous sommes en train de nous organiser. Nous avons des dossiers. Il y a notre rôle constitutionnel et légal de critiquer, mais nous préparons aussi les élections et nous préparons des dossiers sérieux pour que nous soyons une alternative réellement crédible.
Alors, concrètement, ça va fonctionner comment, Jean-Baptiste Bomanza? Vous avez un conseil de ministre, vous avez...
Si. Nous nous réunissons régulièrement, et d'ailleurs, vous de la presse, vous serez de temps à autre informé, parce que le compte rendu de nos réunions seront rendu public, et nous aurons même un bulletin d'information mensuel pour informer à l'opinion l'action de l'Union pour la Nation. Et donc, nous n'avons pas l'effectivité de la gestion du pays sur le terrain, mais nous fonctionnons comme ce gouvernement-là. Nous préparons tous les dossiers. Et d'ailleurs, il est dit dans la loi portant statut de l'opposition, c'est l'exécutif qui est bicéphale, qui est en face de nous, le gouvernement et le président de la République ont l'obligation de nous informer du fonctionnement de la Respublica. Mais maintenant, avec notre équipe, comme ils ne nous informent toujours pas, nous avons aussi l'obligation de les voir pour leur poser la question de savoir comment ils gèrent la Respublica.
Donc vous serez comme un comité de pression.
Bon, comme vous pouvez le désigner, mais l'essentiel est que désormais nous fonctionnons et que ceux qui gèrent sachent qu'aujourd'hui l'Union pour la Nation est debout et ils doivent prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour nous informer régulièrement de la manière dont la Respublica est gérée par eux.
Maître Tumba.
Oui, si je parle justement de doute, le doute persiste. Parce que lorsque je me suis référé à l'exemple de pays de vieille démocratie, d'abord, quand vous vous référez par exemple à la Grande-Bretagne, c'est le parti, disons, de l'opposition qui a le plus de poids politique, en fait, qui constitue ce cabinet-là. Comme quand vous avez les conservateurs, c'est les conservateurs, ou c'est les travaillistes, ainsi de suite. Donc ce sont des gens, en fait, qui attendent de remplacer ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent. Alors ici, on parle de l'Union pour la Nation, donc c'est comme si les autres membres de l'opposition ne sont pas concernés par cette initiative. Alors, je ne sais pas s'ils parlent au nom de toute l'opposition, ou bien c'est seulement quelques partis ou un seul parti. Tout ça n'est pas tout à fait clair. Et deuxièmement, lorsqu'on parle d'un shadow cabinet, et que ce sont les gens, en fait, qui se préparent à l'alternative, donc à remplacer le gouvernement en place, en réalité, ce sont des experts dans les domaines particuliers. Si vous avez un ministre dans ce cabinet de l'ombre, comme on dit, de l'agriculture, ou de, je ne sais pas moi, de l'intérieur ou de travaux publics, c'est dire donc ce sont des compétences dans ces matières. Et lorsque ce parti-là passe au pouvoir, eh bien on n'a plus à chercher à gauche ou à droite. On prend ces gens qui étaient dans ce cabinet de l'ombre, dans ce shadow cabinet. C'est comme aujourd'hui les libéraux avec les conservateurs sont au pouvoir, eh bien, tu as vu qu'en Grande-Bretagne, il n'a pas fallu 48 heures pour avoir un gouvernement. Donc ces gens-là existaient déjà et ils ont des dossiers sur lesquels ils travaillent. Mais ici, l'impression que ça me donne, c'est un peu un imbroglio. On ne sait pas que
c'est une nouveauté.
Bon, c'est peut-être une nouveauté.
Congolaise.
Congolaise, bien entendu. Mais qui ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Et tout à l'heure, là... moi, je crois que c'est un intervenant Marcel qui a dit, effectivement, il doutait lui-même de la capacité de l'opposition de pouvoir agir dans le bon sens. Et donc, il avait également à son niveau des interrogations. Parce que d'un côté, on donne l'impression qu'on veut se référer à la loi, à la constitution, aux autres, mais de l'autre, on cite les exemples passés. Parce qu'en 1993, lorsqu'il y avait la confusion entre le gouvernement de Birindo, rappelez-vous, je ne sais pas si vous étiez à Kinshasa, monsieur le journaliste, avec Tshisekedi qui avait son gouvernement qui siégeait à Limete. Là, ce gouvernement-là, qui n'était pas légal, on ne pouvait pas le considérer comme un shadow cabinet. Or, ici, quand nous avons tous les instruments de la démocratie, nous sommes dans un état de droit. Donc on ne peut pas accepter. Et si l'opposition voudrait commettre l'erreur de mettre en place un mécanisme allant dans le sens de violer les textes légaux, eh bien je crois qu'ils s'en prendront à eux-mêmes. Parce que ici, si c'est pour se préparer à la gestion, si c'est pour préparer les dossiers,
Ça, c'est un autre problème. Mais si on voudrait mettre en place un gouvernement parallèle, comme il a, le collègue a tendance à dire...
Fantôme.
Oui, bon, disons fantôme ou parallèle, parce qu'il dit qu'il y aura des conseils de ministres, il y aura des comptes rendus, on va informer la population et tout ça. Donc là, vous sentez tout de suite qu'on ne va plus dans la légalité. Et là, c'est ça ma crainte, et c'est cela, disons, le doute que j'ai formulé dès le départ.
Arsène Mouaka, le gouvernement en place ne peut-il pas ou ne pourra-t-il pas tirer profit des résolutions de ce gouvernement fantôme?
Oui, je crois absolument que le gouvernement a besoin d'une opposition. Et si réellement nous voulons une démocratie, le gouvernement doit encourager cette opposition qui est toute la classe politique congolaise à se structurer, à construire un discours. Parce que nous avons assisté à des élections qui ont manqué un discours. Et donc à gauche et à droite, on avait le même discours. On voulait aller au pouvoir, point. Et donc si aujourd'hui, nous avons un groupement d'un certain nombre de partis politiques, ces partis doivent nous dire... ils se réunissent sur base de quelle idéologie? Qu'est-ce qui les réunifie? Est-ce seulement aller au pouvoir ensemble? Ou alors, ils partagent une même vision sur l'économie du pays, sur les questions de l'environnement? Le Congo représente beaucoup d'aspects débats de l'environnement. On n'attend rien de cette opposition, de cette classe politique. Il y a une stratégie mondiale pour ce qui est de l'environnement. Qu'est-ce que le Congo a comme stratégie, et du côté du pouvoir et du côté de l'opposition? On n'attend rien. Et donc, on a réellement besoin d'un discours. Et si c'est pour cela qu'il y a une structuration d'une organisation qu'on appelle gouvernement fantôme, eh bien, moi, je dirais, elle est la bienvenue. Si c'est pour construire finalement un discours sur les politiques publiques, en fait, le Congo a des problèmes réels avec sa classe politique. Et donc, si c'est cela, oui, mais si c'est un millimètre pour aller juste au pouvoir, bon, eh bien, on aurait fait la même chose.
Alors, il y a des auditeurs qui nous écrivent, Arsène Mouaka, Ange Mabonda de Mbandaka, l'Équateur. Un gouvernement fantôme, ce n'est pas cela dont les Congolais ont besoin 50 ans après l'indépendance. On a plus besoin des dirigeants qui vont travailler pour l'intérêt général et non pour leur ventre. Gama Mabé d'Arou en province orientale, que l'opposition cesse de distraire les Congolais car on ne peut pas redresser un fer pendant qu'il se refroidit. Que fera-t-elle d'extraordinaire pour changer la donne alors que nous sommes à la fin du mandat? Attention aux opportunistes. Arsène Mouaka.
Oui, je crois que les inquiétudes sont liées à notre histoire. On a connu dans les années 90 ce qu'on a appelé gouvernement parallèle. Et je crois que le premier auditeur comprend cela dans ce sens. Bon, je crois que Bomanza est de bonne foi et qu'il dit la vérité à cette même population, puisqu'il a dit qu'il ne dira que la vérité. Et donc, si c'est réellement une structure pour construire un discours, pour structurer pratiquement ce que pourra être le Congo de demain, pour être à la page sur le plan politique, eh bien, je crois que notre auditeur ne doit pas avoir peur. Celui de Harou dit, en fait, si un morceau de fer se refroidit, on ne peut rien faire. Non, je crois que nous n'avons pas raison de désespérer. Il y a lieu que le Congo s'arrange et que nous ayons une classe politique qui finalement se forme, puisque retenons que nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie n'est qu'un processus où on approche chaque jour, et on améliore l'une ou l'autre chaque jour, et je crois que même cette opposition va améliorer ses pratiques démocratiques, puisqu'on en a besoin, et c'est elle qui doit être en terre, qui éclaire plus ou moins le pouvoir et qui se présente réellement en alternative, plutôt que d'assister à ce à quoi on assiste parfois au Parlement, qui semble nous dire qu'il y a une unicité de notre classe politique.
Du côté de l'opposition non institutionnelle, l'UDPS salue cette initiative de l'Union pour la Nation, mais souhaite qu'elle ne soit pas que des belles paroles en l'air. Valentin Moubaki regrette aussi le fait que cette initiative de l'Union pour la Nation soit prise à une année seulement des prochaines élections. On l'écoute, il est au micro de Kevin Couté.
Nous saluons cette action-là, mais il ne faut pas que ce soit des faits d'annonce, comme ce fut le cas avec le porte-parole de l'opposition, et jusqu'à preuve du contraire, cette affaire-là, nous l'avions toujours dit, c'était un piège qu'on leur avait tendu pour leur accorder quelques prébendes aux uns et aux autres. Actuellement, le pouvoir en place a échoué, et nous, l'UDPS, ce n'est pas une surprise, nous savions que cette affaire de 2006 n'allait pas aller loin. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous sommes posé la question de savoir, nos collègues de l'opposition qui sont dans les institutions, fallait-il attendre un an avant la fin du terme de ce mandat pour pouvoir se comporter conséquemment? Nous ne voulons pas des faits d'annonce, nous voulons du concret. Nous ne savons même pas à quoi servirait ce fameux gouvernement. Nous ne réagirons pas, nous, sur des faits d'annonce. Nous voulons du concret. Eux sont dans les institutions. C'est là que eux se battent. Mais nous ne sommes pas là-dedans, nous, UDPS. Mais qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils attendraient de nous dès lors que nous ne sommes pas dans les institutions.
Alors, avant de donner la parole à Jean-Baptiste Boumanza, Arsène Mouaka, comment vous réagissez au propos de Valentin Moubaké de l'UDPS?
Bon, je crois qu'il est... Avec la respecter, ce qu'un analyste peut être pour le Congo, c'est-à-dire il suffit d'être pessimiste pour avoir raison. C'est-à-dire, bon, le plus souvent, on a comme l'idée que rien ne va aller, rien ne va marcher, et donc l'analyse est assez facile au Congo. Je crois qu'il faut écouter cette opposition qui se structure, l'encourager, parce que même le pouvoir en a besoin, et c'est la chance pour le pays, finalement, d'avoir des hommes politiques qui seront déjà préparés, pas des hommes qui auront pour premier boulot de leur vie ministre. Et donc, je crois que le parti politique a la charge aussi de former. On peut se former à l'école, être chef de classe, on peut se former dans la société civile, dans les organisations du quartier, et ainsi de suite, mais aussi, on peut se former au parti politique. Et donc, si il peut y avoir réellement des activités au sein des partis politiques, je crois que nous allons élever les niveaux des acteurs qui vont nous gérer demain. Moi, j'étais malaisé d'assister aux élections, de voir que même les grands partis politiques avaient des difficultés à avoir juste des témoins dans le bureau de vote. Tous ceux qui se disent grands partis politiques, et je refuse de citer un seul, je l'ai vu, avoir des témoins d'un certain nombre de bureaux, mais ici à Kinshasa même, j'ai vu tous ceux qui se disent grands partis politiques échouer d'avoir juste des témoins. Donc, on a besoin de former et les militants et les cadres de partis politiques. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut qu'encourager les amis.
Jean-Baptiste Boumanza, vous avez suivi le son de cloche de Valentin Moubaké, mais vous allez y réagir. En plus, il y a deux auditeurs, Kabaou ici de Boutembo Nord, qui vous, quel type de changement dans la vie des Congolais, la création d'un gouvernement fantôme apportera-t-il? Philippe Masséka de Colosio Katanga, quels sont les fruits que peut attendre la population de ce gouvernement fantôme quand on sait que l'opposition n'arrive jamais au bout de ses actions politiques?
Oui, merci Alain. Je vais commencer par mon compatriote Valentin Moubaké, qui est un ancien compagnon de lutte, parce que nous avons été tous à l'UDPS. Mais je lui rappelle que l'Union pour la Nation n'est pas aux affaires, bien que son président et certains partis politiques soient dedans. Donc, moi qui vous parle, je ne suis pas aux affaires. Et Valentin le sait très bien. Donc, l'Union pour la Nation, c'est un ensemble de partis politiques, de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Et donc, je crois que si la chose intéresserait Valentin et lui de PES, ils n'ont qu'à nous contacter. Et les portes sont grandes.
Est-ce que vous voulez donc, vous ne les avez pas encore contactés de votre côté?
Non, nous avons eu des réunions avec lui de PES, des réunions de suite avec notre compatriote Martin Fayoulou décidé. Vous avez même couvert certaines actions conjointes. Il y a entre autres la marche du 16 février 2010. Et les meetings réprimés du 24 avril 2010. Nous avons été avec l'UDPS. Donc, ce que nous voulons de la part de l'UDPS, c'est de nous contacter et nous allons chacun va mettre la main à la pâte pour que nous puissions évoluer.
Alors, vous avez suivi Maître Tunda pour qui c'est une nouveauté, un imbroglio, un fourre-tout, hein, ce gouvernement en France.
Donc, je me pose la question de savoir si Maître Tunda parle au nom de l'AMP ou du PPRD. Parce que le secrétaire exécutif de l'AMP a réagi à ça et de façon favorable. Je me pose la question de savoir si Maître Tunda a se concerté avec son secrétaire exécutif afin qu'il dise ce qu'il est en train de dire. Moi, ici, je représente officiellement l'Union pour la Nation. D'ailleurs, j'en suis le porte-parole. Nous avons suivi notre compatriote Koya Diallo. Il a un discours tout à fait contraire, au moins qu'il justifie cela par la cacophonie qui se passe chez eux, tantôt le CLP, tantôt tout ça. Là, je pourrais le comprendre. Et donc, il y a les autres compatriotes qui posent la question. Ils n'ont pas besoin de gouvernement fantôme.
Ils veulent savoir ce que la population peut attendre de ça.
Oui, je crois que la population doit nous faire confiance. Parce qu'aujourd'hui au Congo, il y a une crise criante de leadership. Nous nous prenons au niveau de l'opposition.
Non, au niveau de l'opposition, j'ai justifié. L'absence du porte-parole se justifie par le fait que le dossier continue à moisir au niveau des bureaux des deux chambres. C'est à ce niveau-là pour respecter le texte parce que ce sont les deux chambres qui doivent nous aider à désigner le porte-parole. Alors, je vais revenir
très rapidement
dans ce que Maître Tunda dit qu'il y aurait une broglio. Je lui dis non, je crois qu'il est juriste. Et ici, j'attire son attention parce que vous avez suivi, il a déjà commencé avec des menaces. Quand il dit non, on va s'en prendre quand même. Non, Monsieur Tunda. Le Congo n'est ni propriété privée du PPRD, ni propriété privée de l'ANP. Et ce que j'ai dit est constitutionnel, maître. Vous êtes juriste, je vous renvoie à la bonne lecture de l'article 8 de la Constitution et à la bonne lecture de la loi portant statut de l'opposition. Comme ça, vous allez vous exprimer en connaissance de cause. Ce qui unit les membres de l'Union pour la Nation, nous avons une charte qui nous y dit, une charte constitutive. Nous avons même notre propre projet de société à nous, dans le cadre de l'Union pour la Nation, que l'on attend de nous juger aux actes.
Voilà.
Il ne faut pas qu'il y ait procès d'intention, Maître Tunda.
Voilà, Maître Tunda, réaction.
Oui, ma réaction, elle est très simple. D'abord, je suppose qu'il n'y a pas de validation de mandat pour intervenir dans les émissions de radio au Cap. Donc, on ne peut pas nécessairement faire valoir ses qualités à l'Union ou ses qualités à l'AMP pour parler. Donc, je parle ici, comme je suis moi-même député national, je suis juriste, donc je peux intervenir librement. Alors, le secrétaire général de l'AMP, s'il a pris position, soit pour lui, soit pour l'exécutif, s'il a pris position pour lui ou pour l'ensemble de la structure, moi j'ai été invité moi-même et je donne mes points de vue. Mes points de vue sont fondés sur, en fait, c'est pas moi seul qui le dis, tous les auditeurs qui sont en train d'intervenir comprennent qu'il n'y a pas de clarté dans ce qui est fait. Peut-être qu'ils sont de bonne foi, nos amis, mais ce qu'ils présentent justement à la population, à la nation, n'est pas clair. Parce que d'un côté, ils veulent être légalistes, ils veulent se conformer à la Constitution, ce qui est bien. Moi-même, je l'ai dit dès le départ, que je suis déjà intervenu. Avant que lui n'arrive dans cette émission, j'ai dit que l'opposition, c'est une bonne chose. Les actions de l'opposition, c'est une bonne chose. Les programmes bien ficelés, tout ça, c'est bien pour le pays. Je l'ai dit encore que dans d'autres cieux, comme en Grande-Bretagne, l'exemple d'un pays de grande démocratie, les chefs de cabinet, je l'ai dit, ça existe et ça se crée. Mais ici, tel qu'on nous présente, tel que j'ai suivi, probablement que dans leurs documents, c'est clair que c'est le collègue qui ne sait pas rendre ça. Mais quand vous dites tantôt, on va siéger comme un gouvernement en train de parler à la population avec des comptes rendus, vous référez à l'exemple de celui-même qui a parlé des années 70, et plutôt des années 90, 92, 93. À cette époque, il y avait un gouvernement établi. Et un gouvernement qui siégeait, qui se considérait comme le plus investi par rapport au gouvernement de la République.
Parallèle alors.
Parallèle. C'est ça que j'ai dit. Il faut qu'on nous dise alors clairement. Parce qu'ils peuvent élaborer des documents comme disant qu'ils agissent dans le cadre de la Constitution. Et que sur le terrain, ils font autre chose. C'est comme ça que j'ai dit que du point de vue de la nature, en tout cas les choses ne sont pas... Il ne faut même pas être juriste pour comprendre. Déjà, vous-même sur le journaliste, vous suivez l'un des ténors d'un grand parti de l'opposition, Valentin Mougaté, vient de dire quoi. Il dit ça servirait à quoi cette affaire-là. Donc ça veut dire que déjà même au niveau de l'opposition elle-même, il n'y a pas d'entendement commun. C'est ce que je reproche justement à l'initiative, que les choses ne sont pas claires et que, conformément, n'est-ce pas, aux règles qui régissent la démocratie aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous amène dans une initiative tendant à violer la Constitution ou les autres textes. Je crois que c'est très simple.
Arsène Mouaka, les craintes de Maître Tunda sont-elles justifiées?
Bon, je crois que chaque citoyen congolais responsable de ses actes, si le groupe va se rendre coupable des infractions, eh bien, il sera tenu responsable. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir peur des initiatives politiques, puisque ça manque justement, comme je venais de le dire, Il y a tendance plus ou moins, quand on observe à la récréation d'un parti État, où on verrait un mouvement politique se déployer jusque dans l'administration publique, jusque partout. Je crois que c'est de la force de l'opposition que l'on assiste à des choses comme ça, puisque l'opposition a suffisamment de matière pour rappeler le pouvoir à la démocratie, puisque nous sommes en train de bâtir une démocratie, et donc on ne va pas reproduire les choses qu'on a vues sous la Deuxième République. Et plutôt de vue là, moi je me dis que la peur de mettre Tunda est infondée, et qu'il n'a qu'à assister à voir ce que l'opposition va faire, et si elle sera coupable des infractions, elle ira à justice. Après.
Alors, Arsène Moïse, l'idéal pour l'Union pour la Nation n'aurait-il pas été, par exemple, de mettre le paquet pour que le porte-parole de l'opposition soit désigné?
Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit sur, je vais me priver du terme, la médiocrité de notre classe politique. C'est justement à ce niveau. On voit l'alternative qui est incapable de s'organiser pour se retrouver, en fait, et causer, parler, puisque elle veut que le pays marche bien et se retrouver à porte-parole. Bon, maintenant, il y en a qui estiment que ce n'est pas nécessaire, puisque c'est un piège tendu. Eh bien, ça doit se passer dans un débat, dans une discussion. On doit pouvoir quand même discuter de cela. Et donc, on assiste à un ping-pong médiatique et on ne voit pas les gens se rapprocher. Et on les voit se structurer sur le passé, alors que nous avons un avenir. Bon, maintenant, nous allons à 2011, les années des élections passées ont créé l'Union pour la Nation qui a fait ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, je crois que l'opposition doit pouvoir se reconstituer autrement et se préparer rapidement aux élections. Sinon, je crois que nous allons nous entraider pour bâtir un parti État.
Alors, Jean-Baptiste Bomanza, vous avez dit que les deux chambres du Parlement avaient bloqué la démarche du porte-parole de l'opposition. Donc, on comprend par là qu'à l'Union pour la Nation, vous avez mis une croix sur cette affaire.
Non, Alain, nous n'avons pas encore mis une croix. Nous continuons à faire des pressions. Vous savez qu'au niveau du Parlement, l'opposition n'est pas majoritaire. Le dossier est sur le bureau de chambre. Parce que le premier préalable est que nous devons adopter les règlements intérieurs. Et ça ne peut se faire que sur convocation du bureau de chambre. Alors, je veux dire que lorsque notre compatriote Moïse a dit que nous devons nous reconstituer autrement, il a tout à fait raison. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la présence de l'Union pour la Nation, du moins sa restructuration. Et je donne raison au compatriote Moïse parce qu'il attire l'attention de l'opinion sur la tentative de pouvoir imposer un parti unique. Et c'est condamné par l'article 7 de la Constitution, c'est de la haute trahison. Vous voyez le drapeau du PPRD flotter à travers les entreprises publiques. Vous avez vu avec ce qui s'est passé à l'OGPREM.
Voilà, M. Beaumont, donc, il nous reste moins d'une minute pour terminer l'émission. Allez-y pour conclure.
Donc, pour conclure, je dirais que le peuple nous fasse confiance et que les amis de l'opposition qui pensent de la même manière que nous, donc à nous rejoindre, mais notre souci, c'est d'abord de pouvoir aider le pays à requalifier le leadership et à booster le développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leadership, il faut un leadership alternatif.
Merci, Maître Tunda.
Monsieur le journaliste, il n'y a pas de parti unique, justement, dans notre pays. Si on veut considérer le PPRD comme parti unique, c'est une erreur. Tout simplement, c'est la capacité d'agir du PPRD. Sa capacité d'agir sur terrain. Les programmes qui sont réalisés, le déploiement de ses membres à travers le pays, c'est ça qui inquiète aujourd'hui. Alors que l'opposition ne sait rien faire, elle n'a pas de programme, elle ne sait pas s'organiser, elle ne sait pas se choisir ses propres structures. C'est ça le problème de l'opposition aujourd'hui.
Merci monsieur. Je vous prie de vous calmer, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous souhaitez réécouter cette émission, la rediffusion est à 4h15, heure de Kinshasa. Bonne suite au programme sur Radio Capi.
Thank you.